talmudique. Nous mîmes à la voile et prîmes la route des Indes orientales par le golfe Persique. Je fus d'abord incommodé de ce qu'on appelle le mal de mer, mais ma santé se rétablit bientôt et depuis ce temps-là, je n'ai point été sujet à cette maladie. Dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles et nous y vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Un jour que nous étions à la voile, le calme nous prit vis-à-vis d'une petite île presque à fleur d'eau qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles et permit de prendre terre aux personnes de l'équipage qui voulurent y descendre. Je fus du nombre de ceux qui y débarquèrent. Mais dans le temps que nous nous divertissions à boire et à manger et à nous délasser de la fatigue de la mer, l'île trembla tout à coup et nous donna une rude secousse. On s'aperçut du tremblement de l'île dans le vaisseau, d'où l'on nous cria de nous rembarquer promptement, que nous allions tous périr, que ce que nous prenions pour une île était le dos d'une baleine. Les plus diligents se sauvèrent dans la chaloupe, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur l'île, ou plutôt sur la baleine, lorsqu'elle se plongea dans la mer, et je n'eus que le temps de me prendre à une pièce de bois qu'on avait apportée du vaisseau pour faire du feu. Cependant, le capitaine, après avoir reçu sur son bord les gens qui étaient dans la chaloupe et recueilli quelques-uns de ceux qui nageaient, voulut profiter d'un vent frais et favorable qui s'était élevé. Il fit hisser les voiles et m'ôta par là l'espérance de gagner le vaisseau. Delphine Orvillet, Rachid Benzine, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation. Je rappelle, Delphine Orvillet, que vous êtes rabbin au sein du MJLF, le Mouvement Juif Libéral de France, et directrice de la revue Tenoir. Rachid Benzine, vous êtes islamologue, auteur tous deux respectivement d'essais remarqués et remarquables sur le judaïsme et l'islam. Vous venez de faire paraître un trialogue avec Jean-Louis Schlegel aux éditions du Seuil sous le titre « Mille et une façons d'être juif et musulman », un titre qui a inspiré le choix du récit par lequel j'ai commencé l'émission d'aujourd'hui, puisque vous avez en effet reconnu le début du premier voyage de Sindbad le marin, tel que le raconte les Mille et une nuits, ce recueil de contes, écrit dans l'Empire perse sassanide du 3e siècle de notre ère, récit étonnant, car j'ai retrouvé une version quasiment identique dans le traité talmudique Baba Batra, sous la plume de Rabba Bar Bachana, maître talmudique lui aussi du 3e siècle. Ce clin d'œil aux Mille et une nuits que vous faites dans le titre de votre livre, ne vient-il pas dire de façon différente, sans doute pour l'un et pour l'autre, que les contes, les mythes, les histoires, la littérature en général, ont cette force de repousser la violence et la mort de nuit en nuit jusqu'à la supprimer totalement, Delphine Orvillet.
Oui, effectivement, et c'est le clin d'œil qu'on a voulu faire dans ce titre, c'est « Mille et une façons d'être juif ou musulman », est un clin d'œil à ces mille et une nuits, et tout particulièrement peut-être au personnage de Scheherazade, à ce qu'elle vient raconter dans l'histoire, c'est-à-dire la possibilité que la violence terrible et sanguinaire puisse prendre fin quand on fait de la place au récit, quand on décapite pas le récit tel qu'il est porté par l'autre, et tout particulièrement par ce personnage féminin de Scheherazade, qui représente pas simplement les femmes, mais qui représente bien sûr, comme toujours dans nos traditions, la voix de l'autre. Est-ce qu'on fait de la place à la voix de l'autre? Et si on lui fait de la place, alors on peut espérer que la violence prenne fin. Et puis c'est remarquable ce que vous mettez en avant, à savoir que nos traditions sont nourries aussi des récits de l'autre. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui de se souvenir que, contrairement à ce que disent certains fondamentalistes, nos récits ne sont pas purs de l'autre. Ils n'ont pas été non contaminés, mais au contraire, ils sont le produit d'une rencontre avec cette altérité. Et on est riche de cette rencontre qu'on a fini par métaboliser et intégrer dans nos propres textes.
On y reviendra, Delphine Orvillet, sur cette question de la rencontre avec le texte de l'autre tout à l'heure. Mais cette importance du récit, Rachid Benzine, n'est-ce pas ce qui vous a conduit à écrire un roman épistolaire intitulé « Nour, pourquoi je n'ai rien vu venir ?» devenu une pièce de théâtre qui fut jouée en juillet dernier à Avignon sous le titre « Lettre à Nour », magnifiquement interprétée par Lou Delage et Charles Berling sur une musique de Yamen Martini et dans la réalisation de Cédric Ossir. Que raconte cette pièce, Rachid Benzine?
C'est une pièce qui raconte tout d'abord la déchirure et l'écart idéologique entre un père philosophe qui a donné tous les rudiments de la critique à sa fille, Et cette fille qui s'appelle Nour, en arabe, c'est la lumière lunaire, c'est-à-dire nous avons besoin de cette lumière en temps d'obscurité. Et cette fille décide un jour de partir rejoindre Daesh en Irak. Et c'est un échange épistolaire de 14 lettres parce que suite à ce qui s'est passé en novembre 2015, j'ai ressenti une véritable déchirure et notamment qu'est-ce que peut la pensée? La pensée peut-elle encore nous sauver? Et le seul moyen que j'ai eu pour faire face à cette déchirure intérieure, face à cette explosion de la violence, c'était peut-être de raconter un récit de choses que je voyais sur le terrain, puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur la littérature de Daesh. Je suis allé en prison rencontrer beaucoup de jeunes partis rejoindre Daesh et qui sont revenus. Et j'ai eu aussi accès, parce que j'habite une ville en région parisienne qui s'appelle Trappes, où nous avons eu plus de 70 jeunes qui malheureusement sont partis, dont la plupart sont déjà morts, et la difficulté pour les parents de faire le deuil. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir accéder à des échanges entre, je dirais, ces jeunes français et leurs parents.
Alors est-ce que, après coup, vous pensez que cette littérature, cette dimension littéraire est conjuguée à la dimension intellectuelle est plus efficace ou réellement efficace pour, ou en tout cas transmettre pédagogiquement dans les écoles? Peut-être qu'il y a un avenir de cette pièce aussi au niveau de l'éducation nationale.
En tout cas pour moi, il est vrai que c'est beaucoup plus efficace que ce que je pensais. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai pensé que la pensée, les concepts, parce que je suis universitaire et on utilise des concepts qui sont abstraits pour penser le monde, pouvaient nous donner accès à cette réalité pour essayer aussi à un moment de changer la réalité, de donner des moyens aux gens pour comprendre le monde qui était le leur. Et lorsque j'ai écrit ce livre qui est devenu un roman, qui est devenu une pièce de théâtre, tout de suite, nous avons eu un impact énorme puisque cette pièce est aujourd'hui jouée dans les écoles en Belgique. Elle est aussi de plus en plus jouée ici dans les écoles. Charles Berlin et Lou Delage en ont fait une lecture. Elle va arriver au théâtre, je dirais, à Paris. Et je crois que l'impact est beaucoup plus important parce qu'à travers la littérature et à travers la fiction, on accède à un imaginaire et on touche les gens dans leurs émotions. C'est-à-dire que j'ai essayé de parler de Daesh à travers l'intime, entre la relation épistolaire entre ce père et cette fille, et que nous sommes tous des parents, nous avons tous des enfants, et que finalement ce drame-là peut aussi nous arriver. Donc il y a ce que j'aime beaucoup à travers le récit, c'est la possibilité de la fiction et surtout de l'identification, et que le récit raconte une vérité de l'existence humaine, là où le concept devient un peu trop abstrait, et on finit par se parler qu'à soi-même et aux autres qui vous comprennent.
Alors le père dans le récit est un islamologue, c'est un peu vous, c'est un peu autobiographique. Je ne sais pas si Nour c'est votre fille. Le père se rend compte que, comme vous venez de le dire, que le concept n'arrive pas à être efficace pour combattre l'idéologie. Et à la fin, on a l'impression, à la fin de la pièce, que seul l'amour peut sauver.
Je pense que seul l'amour peut encore nous sauver avec cette idée de cet amour qui est capable, j'irais, de transformer et de n'attendre rien. C'est-à-dire que c'est tout le problème de la transmission, de l'éducation. Nous transmettons à nos enfants des valeurs et à un moment, ils prennent la liberté de faire de ces valeurs autre chose, quitte à les retourner contre nous-mêmes. Et c'est ça aussi le processus de liberté et le processus d'émancipation. Simplement, aujourd'hui, il y a chez beaucoup de jeunes une révolte et la question c'est est-ce que cette révolte va être au service de la vie ou est-ce que c'est une révolte qui va être au service de quelque chose qui relève de la mort. Et Daesh utilise la révolte de nos jeunes pour, les amener à tuer d'autres humains et dans un processus de déshumanisation. Parce que pour tuer l'autre, il faut d'abord le déshumaniser.
Alors vous citez une pensée parallèle à celle de la Torah qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie ». Comment, Delphine Orvillère, vous voyez ce rapport dans votre travail avec les jeunes à qui vous enseignez, ce travail essentiel de la fiction, de la littérature qui existe en fait dans ce que nous appelons la Haggadah ou le Midrash, Delphine Orvillère?
Eh bien, ce que raconte très bien l'histoire de Nour et les écrits de Rachid, c'est effectivement ce qu'on retrouve pensé dans le judaïsme sous la question du lien entre les générations. On voit aujourd'hui qu'on assiste, et c'est vrai, dans le judaïsme aussi, pas que dans l'islam, à une sorte de rupture de filiation. C'est-à-dire des gens qui finalement se reconnaissent pas dans la façon d'être juifs ou musulmans de leurs parents et affirment être beaucoup plus fidèles à des arrière-arrière-arrière-grands-parents fantasmés. Bien souvent, il y a comme ça une façon dont on se représente un judaïsme ou un islam authentique, des arrière-arrière-grands-parents, et on critique ce qu'a été l'interprétation de nos parents. Donc, est posée la question directe du lien entre les générations, qui est une question centrale, je dirais, dans tous les rites du judaïsme. Il suffit d'avoir un jour participé à un seder, à une soirée de la Pâque juive, pour voir que la question qui est posée, c'est vraiment celle-là. C'est la question de savoir comment les relations entre les générations vont pouvoir se construire et dialoguer dans la différence. Est-ce qu'il y a de la place autour de la table pour le fils rachat, pour le fils rebelle, ou est-ce qu'on l'exclut de la discussion? Comment est-ce qu'on se représente la façon dont des générations passées se sont racontées une histoire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un héritier? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un fils? Moi, me vient toujours à l'esprit ce célèbre midrash rabbinique qui dit que quand il est écrit « ton fils banaïr » dans le texte, eh bien tu dois lire « bonaïr », c'est-à-dire écrit de la même manière « ton bâtisseur ». C'est-à-dire de quelle manière nos enfants nous construisent aussi. C'est pas seulement nous qui construisons nos enfants, mais quelque chose dans le récit de la génération suivante raconte ce qui nous a édifié, la façon dont on s'est construit. Donc voilà, toutes ces questions qui sont des questions profondément religieuses sont posées aujourd'hui et sont traduites dans la réalité géopolitique et sociologique de notre pays.
Alors vous avez dit un mot important à l'instant, c'est religieuse. J'ai l'impression que la littérature, qui est la littérature qu'on enseigne, que nous avons appris, que vous avez appris, que nous avons tous appris à l'école, est peut-être un des grands apports de l'école républicaine, et en particulier en France, où il y a une place privilégiée pour la littérature. Peut-être que cette conjugaison d'école, de laïcité et de littérature peut aboutir à ce combat réel contre l'idéologie qui est votre véritable combat et le mien aussi.
Moi, je dirais que la littérature peut apporter beaucoup, le rapport au texte, la lecture critique du texte. Et je crois qu'il y a une autre matière qu'on devrait enseigner dans les écoles, et ça va vous parler particulièrement, Marc-Alain, c'est la traduction. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on traduit le texte de l'autre, l'univers mental de l'autre? C'est quelque chose dans lequel on bute toujours, par exemple, dans le dialogue interreligieux, la reconnaissance que lorsque l'autre emploie un mot, je suis jamais vraiment sûre de comprendre ce qu'il veut dire, parce que bien souvent, ce mot dans mon langage se traduit autrement. Il y a ce que les Américains appellent un « lost in translation », il y a un intraduisible du langage de l'autre. Et comment est-ce qu'on peut renforcer cette capacité de traduction dans les écoles? Je crois que c'est une question qu'on doit très sérieusement se poser en tant que pédagogue et parent.
Oui, je poursuis ce que vient de dire Delphine, et en y ajoutant l'idée comment on construit un récit commun. Et je crois que la question de la littérature est très importante parce que elle relève à la fois de l'histoire et des mémoires. Lorsque vous avez des jeunes qui sont issus de l'immigration après 3 ou 4 générations de Maghrébins, est-ce que on ne peut pas étudier, par exemple, Kateb Yassine à côté d'Albert Camus? C'est très important, cette question de l'identification et cette nécessité de construire un récit commun. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis beaucoup contre les discours sur les racines chrétiennes de l'Europe, etc. Parce que quand vous dites les racines chrétiennes ou les racines judéo-chrétiennes, c'est une manière aussi d'exclure l'autre. Et l'autre est aujourd'hui la figure, je dirais, du musulman. Je suis beaucoup plus sensible à cette idée des sources, c'est-à-dire que on est irrigué par des sources, je dirais, multiples. Si je prends par exemple le Coran, il y a beaucoup de récits bibliques. Il y a du Midrash, il y a des évangiles, il y a des évangiles apocryphes. Il y a même des récits anciens du Proche-Orient ancien, tels que, le roman d'Alexandre le Grand. Et on voit bien que le discours coranique, justement, travaille avec de la matière qui est là avant. Et donc, il en fait autre chose. Et que la figure la plus citée dans le Coran, c'est Moïse. Mais le Moïse coranique est un peu différent du Moïse biblique. Et l'Abraham coranique est aussi un peu différent de l'Abraham, biblique. Et c'est dans cet écart-là qu'il y a quelque chose, à mon avis, à travailler ensemble.
Mon cher papa, pardonne-moi, je t'ai menti. Avant-hier soir, je suis arrivée en Irak pour rejoindre mon mari. Nous nous sommes connus sur Internet. Il est formidable. Je suis sûre que tu l'aimeras. C'est un responsable régional de l'État islamique. Tu sais, cette armée de volontaires qui s'est constituée pour défendre l'islam et les pauvres. Il s'appelle Akram. Il est très instruit en religion et très courageux. Il dirige la police ici, à Fallujah. Ça me fait rougir de te dire cela, mais il est aussi très beau et très fort. Papa, mon cher papa, nous nous sommes mariés dès mon arrivée en Irak. Ta petite fille est maintenant une femme, heureuse papa, épanouie, comme tu l'as toujours souhaité. Et tu as consacré tout ton temps à m'éduquer, à m'enseigner la philosophie comme si j'étais l'une de tes étudiantes. Grâce à toi, je me suis imprégnée de toutes ces valeurs auxquelles tu crois. La liberté, la démocratie, l'égalité entre tous les humains, la culture, l'émancipation des femmes, la justice et la bienveillance envers les pauvres. Et tu m'as enseigné aussi l'islam. Tu m'as dit, la religion n'enferme pas. Elle libère la vie, l'amour, la tendresse. Tu m'as dit, sois libre. Tu m'as dit, sois plus grande que moi, ton père. Tu m'as dit, n'aie pas peur de prendre les chemins de la subversion, car le message d'Allah, gloire à lui, est un message d'insoumission. Eh bien, j'ai choisi ma voie comme tu as toujours désiré que je le fasse. J'ai suivi ton message et ton amour pour moi. J'ai compris avec mon propre cœur et ma propre raison. Je suis libre et heureuse comme tu m'as toujours voulu. J'ai rejoint un homme que j'aime et qui partage nos valeurs. Ici, nous allons recréer la cité radieuse, un monde humain, enfin à l'image d'Allah, gloire à lui, et du prophète, paix et salut sur lui. Nous allons chasser les mécréants, chasser ceux qui salissent notre religion, chasser les croisés, chasser leurs esclaves serviles. Nous allons libérer l'Irak, porter notre message à la Syrie, chasser le dictateur qui martyrise son peuple et méprise l'islam. Et un jour proche, nous libérons aussi nos frères et sœurs palestiniens. Tu me l'as toujours dit, nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde. Tant qu'il y a en nous un souffle de vie, nous devons lutter pour la libération des peuples. J'ai accompli ton vœu, papa. Ne me demande pas comment je t'ai fait parvenir cette lettre manuscrite. Quand tu voudras y répondre, il te suffira de poster ta lettre sur ce site, oumadjihad.com, en indiquant simplement mon nom. Je t'aime, mon papa chéri. Ta fille, Nour. Fallujah, le 13 février 2014.
Nous venons d'entendre, Rachid Benzine, un extrait de votre pièce « Lettre à Nour », formidable prestation de ces acteurs qui donnent à entendre la richesse du texte, l'émotion qu'il suscite et la réflexion à laquelle il invite. Je précise déjà aux auditeurs qu'ils pourront retrouver l'enregistrement complet de la pièce sur le site de l'émission, car elle fut enregistrée en direct par France Culture, on entend même les grillons. Mais j'aurais voulu que vous rajoutiez quelque chose sur ce personnage de Nour, parce que c'est une enfant qui a été éduquée, qui a fait de la philosophie, et pourtant.
Oui, effectivement, j'ai beaucoup d'émotions en réécoutant la voix de Lou Delage interpréter Nour. Nour est une fille brillante qui a fait des études en sciences religieuses et en philosophie, et qui, malgré tout ce travail critique, finit par rejoindre Daesh. C'est tout simplement parce qu'on constate qu'il n'y a pas de profil type. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes brillants intellectuellement qui avaient rejoint Daesh et qui sont aujourd'hui en prison, donc avec des catégories socio-professionnelles différentes, avec des gens du monde entier. Donc, ce n'est pas simplement des jeunes qui seraient désaxés ou pauvres ou simplement des convertis. Nous avons un phénomène qui est beaucoup plus complexe et qui vient aussi interroger la problématique de nos jeunes aujourd'hui. Et l'abbé Pierre disait qu'une civilisation se mesure à la qualité des objets de colère qu'elle est capable de proposer à sa jeunesse. Et Daesh est un objet de colère qui arrive à importer, à embrigader nos jeunes.
Alors on a évoqué cette notion d'histoire comme récit dont vous venez de nous expliquer l'importance qu'elle revêt pour chacun d'entre vous. Et cette notion de récit se prolonge dans votre livre par une réflexion sur un autre sens du mot histoire, l'histoire des historiens, celle de l'enquête historique qui tend à nous restituer les faits tels qu'ils se sont passés, en tout cas au plus près de la manière dont ils se sont passés ou dont on croit qu'ils se sont passés. Cette histoire et son enseignement est essentiel à la fois pour l'islam et le judaïsme. Tout d'abord pour la compréhension des textes. Le texte de la Torah, vous en avez fait allusion Delphine tout à l'heure, se déploie par exemple dans la rencontre très explicite avec d'autres cultures babyloniennes, égyptiennes, cananéennes, perses, grecques, puis plus tard dans le Talmud avec Rome et plus tard dans les commentaires se déploieront les paysages de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de Pologne, de Russie, de Hongrie, de Turquie. Je crois que cela a un sens fondamental pour le judaïsme, c'est l'idée que l'identité juive, si l'on tient à user de cette expression, question, ici inadéquate, est toujours déjà dialogique, que le judaïsme et ses textes et sa pensée et sa vie se sont toujours constitués dans la rencontre avec d'autres cultures, dans la coalition des cultures, comme dit Lévi-Strauss. Delphine Erwiller.
Oui, me revient à l'esprit une discussion que j'ai eue tout au début de ma formation rabbinique avec l'un des dirigeants du séminaire à New York, à qui j'avais demandé « Mais à quel moment on aura des cours de théologie et de pensée juive cette année ?» Il m'avait dit « Mais enfin, ce sera enseigné pendant les cours d'histoire. » Et j'avais trouvé cette phrase très juste, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on visite l'histoire juive, eh bien, on se rend compte de la façon dont ces sédimentations de l'histoire, ces strates de l'histoire, en fait, ont construit notre pensée. Et c'est vrai. Je dirais dans toutes les strates du judaïsme, dans toute sa temporalité, dans tous ses rites, vous savez, on compte les mois, mais les mots qu'on utilise pour appeler ces mois est un mot babylonien. Le temps dans le judaïsme est compté avec des termes babyloniens. Et quand on fête Pourim, alors on passe par l'évocation de notre rencontre avec la Perse antique. Et quand on fait le Seder de Pessah, eh bien, on est de retour à un symposium gréco-romain. Donc, on est en permanence en train de dialoguer avec les temps de notre histoire, à les faire ressurgir, à se poser la question de comment ils nous ont construits. Mais paradoxalement, il faut bien l'admettre, il y a certaines personnes qui aspirent à se raconter leur histoire comme étant pure de toute contamination, comme si finalement les autres ne nous avaient jamais impactés, comme si toutes ces civilisations qu'on avait croisées n'avaient eu vraiment aucun impact sur nous et qu'on était resté pur. Ce thème de la pureté, on en parle très souvent avec Rachid, c'est une forme d'obsession chez tous les fondamentalistes de l'histoire. Et c'est ça qu'il faut questionner. Comment est-ce que je peux percevoir l'impact de l'autre comme une bénédiction et pas comme une malédiction ?
Alors, il faut même leur enseigner un midrash que j'ai trouvé récemment, qui est tellement fabuleux que je le relis tous les soirs. C'est dans le Midrash Tanhuma qui dit que le mot « anochi », qui veut dire « je suis », qui est le premier mot des 10 commandements, est un mot en fait égyptien, « anoch », qui est la croix de vie, et qui dit que Dieu ne pouvait pas leur parler en hébreu puisqu'il ne connaissait pas l'hébreu, et s'il voulait leur parler, puisque ça faisait déjà des dizaines de générations qu'ils étaient en Égypte, il ne pouvait leur parler qu'en égyptien. Donc le Midrash dit que la Torah, les 10 commandements ont été donnés aux Hébreux en langue égyptienne. Je crois que c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Alors, Rachid, vous aussi, la manière dont l'islam, un certain islam, se comprend vis-à-vis de l'histoire, peut-être de manière très différente, et j'aimerais insister ici, parce que je crois que c'est aussi au cœur de votre livre, le judaïsme français dont on parle aussi, particulièrement dans ce livre, et l'islam de France dont on parle dans ce livre, se rencontrent, mais sur deux modes différents du rapport à l'histoire, parce que les juifs français sont en France depuis des générations, depuis le Moyen-Âge et même avant, et puis ils ont contribué par leur intégration à construire aussi la France, à construire la laïcité, la recevoir, autant recevoir que donner, et j'ai l'impression que dans ce dialogue que vous avez ensemble, le judaïsme français est peut-être un modèle de ce que pourrait être l'islam de France, c'est-à-dire cette rencontre avec la République, la laïcité et la nation, d'une certaine manière.
Mais je crois qu'il y a une espèce d'amnésie en ce qui concerne la présence de l'islam en France, c'est-à-dire qu'il y a une présence de l'islam en France depuis au moins le 8e siècle. Et donc ça, je crois que ça fait partie de l'amnésie française. Donc la présence musulmane au Moyen-Âge a été importante. La fécondation, notamment à travers un certain nombre de penseurs musulmans concernant le passage, je dirais, de la pensée grecque vers le monde latin est aussi importante. Et je crois que ce sont ces amnésies qui ne nous donnent pas la dimension exacte de ce que pourrait être cet islam. Il est clair que aujourd'hui la présence de l'islam dans la société en française est liée d'abord aussi au fait colonial. C'est peut-être ça, la nouveauté, et notamment derrière le mot islam, quand on gratte bien, la question algérienne ou la question de la guerre d'Algérie n'est jamais très loin. Donc nous avons affaire à des mémoires qui sont blessées, nous avons affaire à des mémoires et à des concurrences victimaires, et nous devons absolument travailler là-dessus. Maintenant, pour revenir sur cette question du rapport à l'histoire, je crois qu'il y a quelque chose que je partage beaucoup avec Delphine, c'est sur notre rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une distinction à faire entre l'histoire du salut, l'histoire religieuse que peuvent raconter les religieux aujourd'hui dans les mosquées, et l'approche historico-critique, la discipline des historiens. Et malheureusement, en ce qui concerne l'islam, mais d'un point de vue général, ce que je vois, c'est qu'il y a plutôt un déficit d'histoire, notamment en ce qui concerne la première période de l'islam, et c'est ce déficit d'histoire qui amène cet excès de mémoire qui est complètement fantasmé dans son rapport à soi et aux autres. Et à partir du moment où vous avez votre rapport à l'histoire qui est biaisé, il est normal que votre rapport aux autres soit aussi biaisé. Et le salafisme, par exemple, qui est une tendance à l'intérieur de l'islam, qui est née notamment avec Mohammed ibn Abdel Wahhab au XVIIIe siècle, et qui jusque dans les années 50 était considéré comme une hérésie dans le monde musulman. Cet islam salafiste néo-wahhabite qui nous vient finalement des pétrodollars de l'Arabie Saoudite, a tendance à devenir l'orthodoxie. Et là, c'est une véritable OPA sur cet islam-là. Et donc, beaucoup de mouvements qui sont en vérité des mouvements contemporains prétendent être à l'origine, et puisque la question de l'origine, c'est aussi la question du pouvoir. Et seule l'histoire nous permet de montrer comment l'islam a été fécondé par les autres, comment, par exemple, le statut du Coran, ce sont des concepts grecs qu'on va utiliser au 9e siècle, là, parce que lorsque Mohammed le prophète est en train de parler, il n'y a ni exégète, ni théologien, ni juriste. Et donc, c'est important de montrer comment l'islam, au départ, est une alliance, et comment, au fur et à mesure, 2 siècles plus tard, il va construire ses dogmes à travers, notamment, Bagdad, où nous avons affaire à une société d'hybridation interculturelle et interreligieuse. Et à ce moment-là, vous avez une entrée massive de chrétiens et de juifs dans l'islam. Et lorsqu'ils arrivent dans l'islam, il y a une forme de biblisation de l'islam. C'est-à-dire que si vous rencontrez, si vous travaillez le hadith, c'est-à-dire la tradition prophétique, vous allez retrouver beaucoup d'éléments du judaïsme. Alors ça, les salafistes n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'il y a des éléments
c'est cette
du
question,
judaïsme.
Parce que c'est exactement la question que je vous posais, et j'ai vu qu'une petite réticence... Alors, je parlais de modèle et pas du tout de manière paternaliste, si vous voulez. C'est simplement par rapport à cette idée d'identité dialogique. C'est-à-dire que la Bible elle-même est vraiment constituée de l'identité de la rencontre. C'est-à-dire que Abraham est vraiment, il vient dans le texte, il vient de Babylonie. C'est-à-dire que c'est vraiment des textes de rencontre, et l'identité juive est une identité qui n'existe pas parce qu'elle est toujours dialogique, elle est toujours constituée, elle est toujours bi quelque chose. Et j'ai l'impression que même si le Coran s'est constitué, comme vous venez de le dire, d'apports, de rencontres, d'hybridations, l'identité musulmane peut-être aujourd'hui a des difficultés à se sentir aussi dans cette dimension dialogique et plus renfermée. Et ce que je proposais, c'était de dire, c'est une question en fait, c'est sous forme de question. Est-ce qu'il y a aussi dans cette identité ou non-identité, parce que c'est aussi une forme d'enfermement de par l'identité, est-ce qu'il y a aussi là, cette dimension non seulement d'hybridation dans les apports, mais dans le dialogue permanent?
Moi, je crois que ça a toujours été, là, si vous prenez la pensée musulmane, il y a toujours cette idée d'une pensée dialogique, de ce dialogue, de cette confrontation, de ces conflits. Simplement, il s'avère qu'aujourd'hui, dans la société de mondialisation, un certain nombre de groupes sont en train de se crisper d'un point de vue identitaire, et cette crispation identitaire qui devient un peu l'islam authentique chez beaucoup de gens. Et c'est là où c'est problématique, parce que c'est une conception mineure à l'intérieur de l'islam qui a tendance à se définir à la fois comme l'orthodoxie, mais aussi l'idée de l'orthopraxie. Mais si vous regardez la manière dont vivent les citoyens de confession musulmane, cette rencontre, cette hybridation, elle a déjà lieu, puisque aujourd'hui la société française est quand même le pays où il y a le taux de mariage mixte le plus fort d'Europe. Donc ça vient bien dire que l'assimilation et l'intégration sont déjà en cours. Simplement, en France, on sait mesurer l'échec, mais on ne sait pas mesurer la réussite.
Alors on va essayer de mesurer la réussite. Et ma dernière question sera, à qui s'adresse ce livre, Delphine Horvillers?
Je crois qu'il s'adresse à tous ceux qui veulent penser leur identité de façon un peu plus complexe que ce à quoi elle est si souvent assignée en ces temps de communautarisation. On a l'impression que beaucoup de personnes ont l'impression qu'ils ne sont plus dans l'espace public que juifs ou que musulmans, que ça prend énormément de place dans leur définition identitaire. Alors, c'est une des dérives de tout dialogue interreligieux, il faut bien l'admettre. Quand on vous demande de parler dans un dialogue interreligieux, vous êtes le juif ou le musulman et censé parler au nom d'un judaïsme, de l'islam, comme si la Torah ne disait qu'une chose, comme si le Coran n'avait qu'un seul message. Donc on essaie de ramener un petit peu de complexité, et on a la conviction, je crois, Rachid et moi, que peut-être que la France et sa laïcité et les principes de la République, eh bien, nous donnent une opportunité extraordinaire de le faire. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu où c'est possible, où on a cette bénédiction, je crois, qu'elle nous offre la laïcité, qui nous invite à penser parfois contre soi, contre sa naissance, contre son origine. Et ça, c'est une grande chance qu'il faut saisir. Moi, je pense toujours au nom que porte la France en hébreu, vous savez, Tsarfat, qu'on peut traduire aussi comme ce creuset de l'orfèvre, c'est-à-dire ce lieu qui nie la puissance de la pureté, mais qui au contraire dit que c'est dans l'alliage, que c'est dans le caractère hybride de ce que l'on construit qu'on va trouver de la force.
Sur ces magnifiques paroles, Nous terminerons cette passionnante émission absolument importante aussi. Je vous remercie pour ces 2 semaines passées en votre compagnie. Bien évidemment, j'ai encore de très nombreuses questions à vous poser. Je pense que les auditeurs aussi. Je renvoie à votre livre « 1001 façons d'être juif et musulman », un trialogue, comme je disais, plutôt qu'un dialogue, parce que il y a aussi la main de maître de Jean-Louis Schlegel qui vous a conduit à répondre à toutes ces questions. Merci encore et bonne chance, non seulement pour votre livre, mais aussi pour votre engagement si urgent pour notre temps. C'était Talmudique, une émission de Marc Alain Ouaknine et Françoise Ménager, à la prise de son aujourd'hui Jazen Taous, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journaud. Vous retrouverez les archives sonores, les bibliographies de nos invités sur le site de l'émission, que vous pourrez réécouter, podcaster, partager entre amis. Kol Touv Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.